l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Dans le cadre donc de la politique pénale de rentrée, le tribunal de Narbonne va aborder certains sujets importants sur les ondes de Grand Sud FM et je reçois aujourd'hui le procureur de la République de Narbonne, Éric Camus. Bonjour monsieur le procureur.
Oui, bonjour.
Alors on avait parlé précédemment de la déscolarisation et puis également du harcèlement scolaire. D'ailleurs les auditeurs de Grand Sud FM peuvent retrouver ce podcast sur le site grandsudfm.com dans la rubrique invité. Monsieur le procureur, en 2023, le fisc a récupéré un peu plus de 15 milliards d'euros en chassant les fraudes. Est-ce qu'il y a une catégorie de la population qui fraude plus qu'une autre?
Alors, catégorie, je ne sais pas. Bien évidemment, les personnes qui ont des ressources plus importantes que d'autres peuvent être tentées de le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons donc déployé une politique pénale depuis notamment le décret de 2021, puisque depuis 2021, le parquet de Narbonne a une compétence départementale sur tout ce qui relève de la fraude fiscale et du travail dissimulé. Et donc, dans cette perspective, nous recevons régulièrement les signalements de la direction des finances publiques et à compter de 2025, nous allons avoir des audiences dédiées, audiences fraude, où les personnes qui sont convaincues de fraude fiscale ou d'infraction à l'échelon du travail, de travail dissimulé, vont être jugées par le tribunal correctionnel.
Quelles sont les différentes mesures mises en place contre cette fraude fiscale?
Alors, il y a déjà les enquêtes qui aboutissent à ce que les personnes soient jugées devant le tribunal correctionnel, mais pas seulement. Nous avons mis en place des enquêtes miroirs. Ces enquêtes miroirs font que lorsqu'à l'occasion d'une enquête, des services de police ou de gendarmerie s'aperçoivent que la personne est en situation de fraude, alors fraude sociale, très clairement, du fait par exemple de ce que elle vit avec l'ensemble de sa famille alors qu'elle bénéficie de l'allocation par isolé. Fraude fiscale au regard d'un patrimoine particulièrement important alors même que on découvre que elle ne déclare aucune ressource. Eh bien dans ces cas-là, les enquêteurs arment ce qu'on appelle une enquête miroir et vont par un circuit dédié extrêmement court parce que ça se fait par mail, informer la caisse d'allocation familiale et informer la direction générale des finances publiques. Et l'ensemble du dossier est transmis à ces administrations qui vont de cette façon soit être amenées pour la caisse d'allocation familiale à suspendre les droits d'une personne qui a menti sur sa situation. Soit pourvoir à l'imposition de la personne au regard d'un patrimoine qui n'a pas été déclaré. Donc ça, c'est la première chose que nous avons mise en place. La deuxième, c'est ce dont nous avions parlé la dernière fois, c'est tout ce qui relève des bailleurs sociaux. Nous avons signé des conventions avec tous les bailleurs sociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en indélicatesse du fait des conditions d'utilisation du logement, notamment pour le trafic de drogue ou autre, eh bien, sont signalées au bailleur social à qui nous transmettons la procédure pour que celui-ci puisse armer une procédure d'expulsion et donc faire état de ce qu'il y a bien un trouble à travers la procédure que nous lui avons transmise. Et il y a notamment sur le quartier des Platanes trois familles qui font l'objet d'une décision d'expulsion et qui, deux d'entre elles sont déjà parties, la troisième devrait faire l'objet d'une procédure d'expulsion par les services de police ce mois-ci. Et en parallèle, il y a tout ce qui concerne le recouvrement des créances par la direction des finances publiques. Et ça, nous le faisons par la saisie des véhicules automobiles, dans le cadre tout simplement des procédures de conduite en état alcoolique ou conduite en prise de stupéfiants, ou de refus d'obtempérer. La loi fait obligation de saisir le véhicule, donc nous saisissons les véhicules et nous informons la direction des finances publiques de la saisie du véhicule et de l'identité de la personne. Ce qui permet au service des impôts de vérifier si cette personne est ou non en indélicatesse par rapport à des dettes qui n'auraient pas été payées. Très clairement, soit des amendes, soit un contrôle fiscal qui n'aurait pas été réglé. Et si en effet la somme n'a pas été réglée, eh bien nous remettons le véhicule à l'administration des impôts qui ensuite le fait vendre et procède au recouvrement sur la base des fonds obtenus.
On va terminer cet entretien avec vous, monsieur le procureur, par un dossier qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la lutte contre les stupéfiants. Alors, une nouvelle stratégie de lutte contre le trafic de stupéfiants est adoptée depuis juillet par les services judiciaires de la police et de la mairie. On a pu voir notamment une opération menée à la mi-août dans le quartier de Bourg-Charité. En quoi consiste-t-elle?
Alors, ces procédures, ce sont des procédures rapides. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des procédures bâclées, bien au contraire, parce qu'elles relèvent d'une véritable ingénierie juridique. Nous ne saisissons pas le juge d'instruction, nous traitons par enquête préliminaire, ça veut dire que ce sont des enquêtes qui doivent être courtes. Et c'est vrai que nous bénéficions aujourd'hui de la part des services de police et de gendarmerie de niveaux d'expertise qui sont assez remarquables. Le groupe stupéfiant du commissariat de police a à sa disposition des personnes extrêmement engagées qui se sont spécialisées et perfectionnées parce que ça relève d'une véritable technique juridique. Nous menons des opérations coup de poing dans le cadre de cette lutte contre les stupéfiants et la dernière en date qui avait abouti à l'opération du mois de juin-juillet 2024 a connu son dénouement lors de l'audience de la semaine dernière où une personne a été condamnée à 7 ans d'emprisonnement. Alors même, et c'est un point qui avait été évoqué, le fait qu'aucun produit n'avait été saisi par les services de police. Mais quelque part, là où certains pouvaient penser que c'était une fragilité, il nous est apparu que c'était plutôt une force. Parce qu'à partir du moment où vous ne saisissez pas de produit, alors même que vous avez tous les éléments de preuve qui démontrent que le trafic de stupéfiants existe, eh bien, ça veut dire que vous avez en face de vous des personnes tellement bien organisées que justement, elles ont ubérisé leur trafic de stupéfiants et ce qui témoigne par voie de conséquence de leur dangerosité. En tout cas, si le tribunal correctionnel a prononcé 7 ans d'emprisonnement pour le plus gros trafiquant, c'est qu'il a été manifestement convaincu de la pertinence des investigations qui ont été menées à ce sujet. Et bien évidemment, la saisie des avoirs criminels, puisque à cette audience, plus de 140 000 euros d'avoirs criminels ont été confisqués.
On peut également parler de l'opération PlaceNet 11 qui a été menée sur Narbonne. Est-ce qu'il y a un lien avec cette nouvelle stratégie et l'opération PlaceNet, justement ?
Elles sont totalement complémentaires. Nous avons la chance, sur ce ressort, de travailler en pleine coordination avec l'ensemble des acteurs publics. À telle enseigne que nous avons créé trois groupes locaux de traitement de la délinquance, deux sur Narbonne, un sur les Lézignan-Corbières. Et nous travaillons justement au paramétrage des opérations de police judiciaire pour, d'une part, lutter contre toute forme de trafic et en même temps sécuriser nos concitoyens, tout simplement pour qu'ils profitent de leur cadre de vie et ne soient pas heurtés par des phénomènes délinquentiels qui existent sur le ressort.
Quel bilan pouvez-vous tirer de cette lutte contre le trafic des stupéfiants depuis que vous êtes à Narbonne, monsieur le procureur ?
C'est le bilan de la réussite des services d'enquête. Il faut vraiment souligner leur investissement, leur travail. Le trafic de stupéfiants, c'est vraiment la gangrène de notre société contemporaine. En même temps, il faut prendre la mesure des succès qui sont réalisés, des opérations qui sont menées et surtout des condamnations qui sont prononcées et qui attestent véritablement de l'efficacité de nos services d'enquête. Alors, j'entends parfois que le sentiment d'insécurité se développe sur notre ressort. Moi, tout ce que je peux dire, c'est preuve à l'appui, vous montrer que les services de police et de gendarmerie et les services des douanes, parce qu'ils travaillent également dans cette direction, eh bien, sont parfaitement engagés et témoignent de véritables réussites.
Est-ce que l'on peut dire que cette lutte contre le trafic des stupéfiants, c'est une priorité pour vous ?
Ah, complètement. Et puis, c'est une priorité nationale. Parce que il est évident que, et nous le voyons notamment dans le cadre des personnes qui sont interpellées, qui sont en décompensation, c'est une véritable plaie pour les personnes elles-mêmes qui sont usagées parce qu'elles se détruisent. Il n'y a pas d'autre mot.
Eh bien, merci, monsieur le procureur, d'avoir répondu à mes questions sur Grand Sud FM. On vient de parler de la fraude fiscale, mais également du trafic de stupéfiants sur Grand Sud FM. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.